milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Florelle Mandat.
Bonjour à tous, vous écoutez 7 milliards de voisins, une émission consacrée aujourd'hui au monde des startups. En juin 2017, Emmanuel Macron déclarait une startup nation est une nation où chacun peut se dire qu'il pourra créer une startup. Je veux que la France en soit une. À travers ce courage, entre guillemets, d'aller vers des plaines inexplorées, comme il le dit lui-même, le président français, tout juste élu, souhaitait permettre aux jeunes et aux moins jeunes de s'identifier à des figures de réussite et ainsi devenir les maîtres de leur vie. Les startups seraient d'après lui un moyen de développer les formations, non seulement par leurs idées innovantes, mais aussi par leur esprit d'initiative et d'évolution. Mais derrière ces perspectives très positives, que se cache-t-il réellement et quels sont les enjeux économiques? Le bien-être au travail est-il vraiment au centre de ces jeunes entreprises? La startup nation tient-elle toutes ses promesses? Pour décrypter tout cela, nous allons en discuter avec nos invités. Bonjour Arthur Degrave.
Bonjour.
Fondateur de l'agence de communication Stroika. Vous êtes l'auteur de Startup Nation Overdose Bullshit aux éditions rue de l'Échiquier. Faridara, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes entrepreneur et président d'un collectif d'entrepreneurs Founder Family et président d'un réseau de change makers basé dans des lieux d'innovation en Afrique. Nous serons aussi en ligne tout à l'heure avec Yaya Bruno Koné, cofondateur de la startup ivoirienne Koliba qui entend améliorer la collecte et la transformation des déchets grâce à la technologie. Nous écouterons également le témoignage d'Alice, 32 ans. Elle travaille depuis 4 ans pour une plateforme de e-commerce, une start-up parisienne dans toute sa splendeur. Témoignage recueilli par notre journaliste Alice Milo. Et quant à vous, les voisins, les voisines, si vous partagez cette vision de la Startup Nation ou au contraire, si vous n'y croyez pas du tout, si tout cela vous semble un petit peu utopique, appelez-nous. Dites-nous ce que vous en pensez. 33 1 84 22 71 71, sur WhatsApp aussi, vous nous laissez des messages écrits et puis vous nous suivez en direct sur Facebook et sur Twitter.
7 milliards de voisins et la planète se barre.
Et on commence cette émission avec vos messages Facebook. Alors, il y a Francelle de Cotonou qui dit « Je suis en train de fonder ma start-up et c'est un vrai cauchemar. Je fais actuellement les tests de validation marché. C'est un projet technologique, mais je ne gagne rien encore et rien ne fonctionne encore très bien. Je vis cela depuis des mois. C'est très difficile pour moi qui a une petite famille. Le marché africain n'est pas encore prêt par rapport aux technologies, applications web, mobiles, etc. Pas sensibilisé sur l'importance d'utiliser ces outils. Également Mamadou Adama à Conakry. Personnellement, à chaque fois que j'entends le mot start-up, je me dis que c'est de la fiction ou de la télé-réalité. En Guinée, c'est facile à établir en dehors et ici, c'est une autre réalité. Premièrement, les banques ne font pas de prêts sans garantie. Or, ici, personne n'en possède. Deuxièmement, l'État fait la sourde oreille vis-à-vis de l'emploi des jeunes. Christus à Kinshasa, trouver de l'emploi est devenu très difficile pour certaines personnes. C'est pour cela que beaucoup se lancent dans l'aventure start-up. Pour moi, une start-up peut être un rêve s'il est mûri de longue date, mais cela devient un cauchemar du moment où rien ne marche et il n'y a pas d'appui et de financement. Enfin, Wilfried, à Cotonou, il faut avoir de la créativité et aimer vraiment ce que l'on fait. Si vous vous lancez simplement pour fuir le chômage, vous allez vivre un cauchemar, c'est sûr. Pour moi, l'équation start-up se résume ainsi. Start-up égale créativité plus motivation plus détermination. Alors là, on a un petit peu un panel de messages donc, du continent africain. Qu'est-ce que vous avez envie de dire comme ça très rapidement à chaud sur ces messages sans trop en dévoiler, Faridara?
Tout simplement que...
Vous qui connaissez bien le continent.
En plus, c'est marrant parce que je vais y aller dans pas longtemps à Cotonou. Là. Je vais faire un petit tour, j'irai fin d'année, je ferai Maroc, Tunisie, Sénégal... Kigali et Cotonou.
D'accord. Donc,
pour les startups, je pense que la première des choses, c'est peut-être de définir qu'est-ce que c'est que le mot startup.
Oui.
Chacun, c'est peut-être cette définition.
Justement, est-ce que vous avez une définition simple et compréhensible pour le plus grand nombre?
Je ne sais pas si c'est simple. Moi, j'ai juste un terme, en tout cas, qui me revient. C'est parce qu'on confond une entreprise innovante et une startup. Une entreprise innovante, c'est une entreprise voilà, qui va innover. Et une start-up, pour moi, c'est une entreprise qui a comme concept la scalabilité. Ça veut dire la possibilité à la fois de produire beaucoup et très peu avec très peu de changements en termes d'organisation.
Ça, c'est la start-up.
La start-up, c'est quelque chose qui a la possibilité de pouvoir démarrer très, très vite ses ventes. Explication, tout en, on va dire, en réduisant la production. Par exemple, une application, si vous voulez, les Américains posent il y a trois modèles. Il y a ce qu'on appelle le brick and mortar, c'est le boulanger. Donc, c'est celui qui a son magasin. Il y a le click and mortar, c'est celui qui a un site web et un magasin, et le pure player, c'est celui qui est 100% sur Internet. Pour moi, celui qui se rapproche le plus de la start-up aujourd'hui, c'est le pure player. C'est la possibilité de pouvoir aujourd'hui, le plus souvent c'est une application mobile, de pouvoir le matin vendre 1 milliard d'applications mobiles et le soir en vendre qu'une seule. C'est un outil de production pour moi, c'est-à-dire que c'est une capacité.
Mais on est quand même dans l'innovation, dans la start-up.
Oui, mais sinon, dans ces cas, ça reste une entreprise innovante. Pour moi, la start-up, c'est la possibilité de pouvoir exploser, on va dire, en termes de vente.
D'accord. Vous voulez ajouter une définition qui vous est propre, Arthur Dora?
Déjà, il faut constater que c'est effectivement compliqué de définir ce genre d'entreprise parce que c'est un état transitoire, en fait. À la base, start-up, c'était même pas un nom. Ça vient de l'anglais, on disait start-up company. Donc ça veut dire que c'est plus un adjectif. C'est une entreprise en phase de démarrage. À la base, c'est ça. Donc toute entreprise a été un jour en phase de démarrage. Le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le terme a pris une autre signification. Et je rejoins ce que vous disiez. Effectivement, une start-up, si j'essaie de donner quelques données, quelques grandes caractéristiques de ce que peut être une start-up, mais vous le disiez tout à l'heure, il y a effectivement une structure capitalistique légère. On n'a pas des investissements lourds dans un premier temps, du moins, parce qu'après, il va falloir chercher des capitaux, mais ça, c'est une autre histoire.
Les levées de fonds, effectivement.
Mais on peut commencer, vous savez, au début des années 2000, on disait, dans les années 90, on disait, c'est une entreprise qu'on peut créer avec 1 euro seulement.
Oui, c'est vrai qu'on dit qu'on peut créer avec très peu de moyens, une start-up.
Ça commence comme ça. Alors, l'envers du mythe, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, et vos auditeurs le disaient, d'ailleurs, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais aussi à cette idée que c'est une entreprise qui vise l'hypercroissance et qui, généralement, dans cette phase-là, n'a pas forcément de modèle économique. Donc, c'est une structure particulière. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où finalement la définition même de la start-up a moins d'importance parce que tout doit être une start-up. Il y a une espèce d'impératif moral à devenir une start-up. J'exagère un petit peu.
Tout doit être une start-up, mais il y a quand même des domaines de prédilection, le numérique, la santé, la biotechnologie, l'environnement.
A priori, c'est plutôt dans la technologie à la base, dans l'innovation.
On comprenne bien.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une espèce de pression, d'impératif à reprendre les codes du monde des start-up, à se la jouer start-up pour être un petit peu dans le vent et à mettre un baby-foot dans l'open space. Ouais, c'est devenu complètement galvaudé parce que c'est là où il y a une différence entre la start-up et la Startup Nation. La startup, c'est un fait économique, c'est un type d'entreprise. La Startup Nation, c'est une idéologie politique. Et donc, du coup, ça brouille un peu les pistes.
Tout à l'heure, vous parliez, Farid Arab, de la différence entre les entreprises innovantes et la startup. Les entreprises comme les startups font rêver parce que on a l'impression que on va avoir accès au succès très rapidement. Est-ce que des entreprises comme Google ou Facebook, ce ne sont plus des startups ? On est d'accord.
Alors, la problématique, c'est que, déjà, elles ont, je crois, Google, ça doit avoir 15 ans, 20 ans maintenant, je pense. On est tout à fait d'accord que c'est un effet, normalement, qui est censé être transitoire. Donc, normalement, ils étaient une startup. La problématique, c'est qu'ils rachètent souvent des startups. Donc, ce n'est pas une entreprise à part entière, c'est un conglomérat d'entreprises. Et donc, ils ont plein de petites startups. Au fur et à mesure, donc ils ont cette capacité à garder ce nom parce que ils sont toujours dans le rachat de nouveaux services.
Et
donc ils ont réussi à garder cette thématique. En plus, pour rebondir, la start-up aujourd'hui, c'est plutôt un peu le rêve américain de l'époque. C'est on fait croire à tout le monde qu'une start-up égale richesse et bien-être. Et c'est un peu la problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est que c'est un mot qui a 20 ans presque maintenant, parce qu'on parlait des années 2000 quand le premier crash est arrivé. Mais aujourd'hui, oui, je peux dire que la start-up fait rêver. Après, il y a l'histoire du cauchemar des rêves.
Alors, qui fait-elle rêver d'après les estimations du cabinet conseil Accenture Stratégie en France? En 2017, les jeunes diplômés étaient moins d'un quart à envisager de démarrer leur carrière dans une grande entreprise, contre 33% un an plus tôt. Du coup, l'arrivée d'Emmanuel Macron à la tête de l'État devait a dû être une bonne nouvelle pour les jeunes générations et les start-up. Par sa volonté de faire grandir les jeunes pousses, c'est comme ça aussi que l'on dit en français. Le président français souhaitait, et c'est encore le cas aujourd'hui, faire de la France la start-up nation. Arthur de Grave, est-ce qu'elles sont légion finalement en France, ces start-up ? Comment la France se situe-t-elle ? Puisque vous avez regardé un petit peu cette vision de start-up avec le premier pays, le premier État à avoir revendiqué ce titre, Israël, et puis l'Estonie aussi, le pays de Skype. Où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui, ces nations ?
Alors, en fait, c'est vrai qu'Israël est le premier pays auquel on a accolé le qualificatif de Startup Nation dans un bouquin qui porte ce titre et qui est une histoire économique des 50 dernières années en Israël. La France, c'est un État un petit peu particulier. Alors, les stades, vous pouvez en trouver sur la création d'entreprises, sur la structuration de l'écosystème. Et même avant l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, les choses avaient déjà bougé. Ça fait une bonne dizaine d'années quand même qu'en France, on sent qu'il y a eu un bon coup d'accélérateur sur la création d'entreprises. La question, c'est est-ce qu'effectivement ça doit faire rêver tout le monde ? Qu'est-ce qu'on en fait derrière ? Est-ce que les messages que vous avez reçus sur Facebook, du coup, étaient intéressants, puisqu'on sent que les gens se rendent compte que derrière le rêve, en fait, ce n'est pas un parcours de santé créer une start-up. C'est énormément de boulot, c'est une aventure structurellement risquée. D'ailleurs, on dit, mais c'est toujours difficile à quantifier, puisque une start-up, ce n'est pas une réalité statistique, c'est un état transitoire, comme on le disait tout à l'heure.
Mais un état transitoire qui pendant combien de temps ?
Qui dure en ce moment.
C'est compliqué. Théoriquement, on peut se dire... Autrefois, on se serait dit que ça s'arrêtait au moment où on rentrait en bourse. Qu'une fois qu'on était coté, on devenait une grande entreprise. Aujourd'hui, on est dans une situation où les entrées en bourse, c'est quand même moins légion. Vous avez des boîtes qui, 10 ans après, peuvent être valorisées des milliards et des milliards. Je pense par exemple à une entreprise qui... fait du véhicule, qui fait rouler des voitures noires dans Paris et qui fait du VTC, une certaine Uber, qui est valorisé parfois, je ne sais plus où on en est aujourd'hui, mais autour de 60-70 milliards peut-être, qui n'est pas coté et qui n'a pas de modèle en fait, économique aujourd'hui, qui n'est pas rentable. Donc quand vous êtes valorisé 60 milliards et que vous n'êtes pas rentable au bout de 10 ans, est-ce que vous êtes encore une start-up ou pas ? C'est là où la définition devient compliquée. Mais ce qui est sûr, c'est que les chiffres officieux nous disent que environ 9 projets d'entrepreneuriat, 9 start-up sur 10 se plantent. Ce qui est normal, c'est structurellement risqué.
On se demandera pourquoi, effectivement, tout à l'heure, pourquoi elles échouent. Vous voulez juste rajouter quelque chose rapidement, Farid Arab ?
Non, mais par exemple, j'allais rebondir sur un autre. Moi, j'allais plutôt parler de trottinette électrique, où aujourd'hui, souvent, le fameux... c'est peut-être ça, quand on parle de start-up, on parle beaucoup aussi de modèle d'affaires, de business model. C'est aussi ce qui les définit souvent dans les startups, c'est la manière de gagner de l'argent. Souvent, au début, ils sont beaucoup sur deux innovations, ou c'est une innovation technologique ou une innovation d'usage. Donc, surtout, on parle beaucoup d'innovation. Et quand il y a une innovation, on essaie de chercher un business model, enfin, en tout cas, un modèle d'affaires qui correspond à, finalement, cette recherche. Parce que le but, c'est le terme qui est souvent associé à startup, c'est la disruption. C'est comment on vient dans un nouveau marché prendre la place des autres. D'accord. C'est ce qu'a fait à peu près souvent Google, c'est qu'il offrait du gratuit. C'est ce qu'on a eu avec Google Maps, Gmail et ainsi de suite. D'accord. Et quand on offre du gratuit, on arrive à prendre la première position et là, on peut finalement avoir un business model. Uber, ce qu'ils veulent faire, c'est que même s'ils ne gagnent pas d'argent aujourd'hui, le but, c'est d'arriver à être le seul et unique référent pour que les autres arrêtent et qu'ils puissent prendre finalement la place.
Mais sachant qu'effectivement Uber a carrément déclaré il n'y a pas longtemps qu'il voulait être le système d'exploitation de la vie quotidienne. Ça fait rêver
justement, on en parle des startups ce matin dans 7 milliards de voisins. Tout à l'heure nous aurons le témoignage d'un entrepreneur ivoirien. Pour l'instant nous écoutons Pongo avec le titre Baya.
Sabula, sabula, magala.
Merci à tout le monde d'être avec nous dans 7 milliards de voisins. Nous parlons des startups avec cet univers qui fait rêver notamment les jeunes générations. Alors rêve ou cauchemar. Et justement, nous sommes en ligne avec un entrepreneur africain, Yaya Bruno Koné. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de la start-up ivoirienne Koliba qui entend améliorer la collecte et la transformation des déchets grâce à la technologie. Merci d'être avec nous. Alors Koliba, donc, c'est votre start-up. Elle existe depuis 4 ans. C'est une application qui permet de trier les déchets plastiques. Vous incitez les familles à trier leurs déchets, les convertir en points pour avoir de la data interne, des produits de beauté ou des produits alimentaires. Vous étiez enseignant chercheur, pourquoi vous vous êtes lancé dans l'univers de la start-up ?
En tout cas, merci donc à la Radio Mondiale. Alors, donc, je dirais que mon aventure a commencé juste par observation, justement parce que je me suis rendu compte qu'en Côte d'Ivoire, il y avait un manque justement à combler, surtout dans la gestion de déchets. Et donc voilà, donc, c'est juste par observation et c'est ce qui nous a poussé à aller dans l'aventure de la gestion des déchets.
Et c'est une entreprise qui fonctionne bien, puisque vous employez aujourd'hui une cinquantaine de personnes. Vous avez ouvert une usine de recyclage. Est-ce que c'est... Voilà, vous alliez comme ça le social, le financier, l'environnement. C'est ça votre secret ?
Oui, je pense que nous, déjà...
Alors, un petit souci. Vous voulez peut-être réagir déjà sur si entre-temps.
Moi, je me dis que c'est bien qu'on nous laisse le temps de réagir. Il va sûrement revenir très vite.
Il va revenir très vite, oui.
S'il nous écoute en attendant, j'aimerais bien qu'il nous dise en tout cas quel modèle il a choisi en termes, si c'est une start-up. Comment lui, il considère que c'est une start-up ou est-ce que c'est tout simplement ce que j'ai dit
tout à l'heure. Elle existe depuis 4 ans, son entreprise.
Oui, mais c'est pas spécialement le délai. Mais
est-ce qu'il vise l'hypercroissance ?
Voilà,
ou
c'est ça.
Est-ce qu'il est sur un modèle plus local ?
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'hypercroissance ? Moi, ce que j'appelle la scalabilité, ça veut dire qu'il est sur un modèle qui va de plus en plus vite, qui va vendre de plus en plus tout en ayant le même outil de production. Mm-hmm. Ou est-ce qu'aujourd'hui, il a tout simplement des salariés et il a une innovation dans le domaine des déchets ? Si par exemple il avait une application qui permettait en ligne de pouvoir faire de la gestion des déchets et de dire aux gens vous allez pouvoir récupérer les déchets, vous les ramenez chez moi et moi je les recycle, on peut parler de start-up parce que plus on a d'applications installées, plus il y a des gens qui vont venir déposer. Mais si c'est simplement une usine qui fait du recyclage, on est dans une entreprise qui est innovante, mais pas une start-up.
On a parfaitement le droit d'avoir une entreprise innovante.
Exactement, hein, effectivement,
bien sûr. Mais effectivement, c'est important de redéfinir les choses et de voir de quoi on parle. Est-ce qu'on se donne comme horizon l'hypercroissance, le fait de conquérir et de prendre une position un peu comme vous l'évoquiez tout à l'heure, à la Google centrale ou non, quoi.
On a retrouvé Yaya Bruno Koné. Vous êtes avec nous ?
Oui, je suis là.
Alors, donc, c'est ça votre secret c'est, pour cette, la réussite de votre entreprise ?
Alors, je pense que déjà, il faut relativiser la chose. Hein, quand on parle de réussite, c'est vrai que nous, on est en plein processus de développement de notre activité.
Oui.
Mais on capitalise sur trois choses assez fondamentales. Donc la première chose, c'est la croissance du marché. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui les déchets qui sont produits et on a du travail. Mm-hmm. Et la deuxième chose, je dirais qu'on capitalise un peu sur le côté humain, enfin le capital humain. Donc
l'aspect social.
D'avoir des bons profils, donc, ça, donc on essaie d'avoir des bons profils donc, ça, dans notre start-up, donc de pouvoir bien créer des projets. Et enfin, la troisième chose, justement, c'est de pouvoir porter la vision et l'ambition qu'on souhaite faire de notre projet.
Mmh. Et vous conseillez aux jeunes Africains de se lancer dans cette aventure de start-up, vous ?
Je pense que dans la mesure où, en fait, déjà, je pense que sur le continent africain, quand vous regardez un peu ce qui se fait, quand on compare un peu les solutions existantes en Afrique anglophone et en Afrique francophone, je pense qu'il y a de l'espoir, donc il faut encourager justement les jeunes à apporter plus de solutions à des problèmes au continent africain.
Oui.
Et voilà, donc moi, j'encourage justement ces gens.
Vous les encouragez malgré les soucis de financement et etc., puisque par les messages Facebook que nous avons reçus ce matin nous parlaient de soucis de financement, justement, sur le continent africain, pour se lancer.
Alors, vous savez, en fait, je pense qu'aujourd'hui, en fait, il faut recadrer un peu les choses. Pour moi, je pense que tout n'est pas forcément lié au financement. Hein. Moi, je pense que le financement, il y en a. Moi, je pense que l'argent, il y a de l'argent, mais en fait, il faut mettre l'argent là où il faut. Hein. Donc, c'est ça la bonne équation à trouver. Et donc, pour moi, je pense que déjà, la première des choses, c'est d'identifier un problème spécifique qui est inhérent voilà, pour les personnes, sur le continent, et ensuite...
Donc trouver des solutions, oui, un problème.
Voilà, c'est vrai que ce modèle économique est très adapté, et voilà, et après je pense que le financement viendra, c'est que quand on a le marché, on a la vision de ce qu'on veut faire. Après, quand on a une très bonne équipe, je pense que oui, le financement peut suivre, frère.
D'accord. Très bien. Merci d'avoir été avec nous. Yaya Bruno connaît la liaison, n'était pas très très bonne. Farid Arab, un mot rapide sur ce que vient nous dire.
Moi, pour le Cotonou africain, parce que ça fait quelques années que j'y vais et je côtoie beaucoup les startups, les premières... quand on parle de rêve et de cauchemar, alors je vais parler de cette fois-ci plutôt du rêve que du cauchemar, mais quand on est africain et qu'on... on est posé à Kigali, on est posé, je sais pas moi, à Cotonou, à Porte Novo. L'une des choses qui fait rêver, c'est de se dire, bon, j'ai un PC, je sais coder et je peux accéder au marché international. Et c'est ça qui fait rêver du côté africain. C'est que même si nous, en France, on a cette facilité, en Afrique, aujourd'hui, on a des monnaies qui ne permettent pas d'avoir autant de puissance que le dollar ou l'euro. Mm-hmm. Et donc, par exemple, moi, je suis basé...
Il y a une différence concrète de réalité entre la start-up française et la start-up africaine.
Sauf que c'est la seule manière, c'est une des seules choses qui peut être super pour l'Afrique, c'est de pouvoir de concurrencer, finalement, de l'Afrique. Et c'est peut-être même un des seuls avantages qu'on a aujourd'hui, c'est que les salaires sont bas en Afrique. Et alors, il y a deux problèmes. Un, les salaires sont bas, mais deux, on a une problématique d'employabilité parce que comme chacun est freelance, chacun va monter son entreprise. Et moi, les amis que j'ai qui ont des startups là-bas, leur premier problème, c'est de trouver des salariés. Parce que les gens ne veulent pas être salariés, ils veulent être freelance. Mmh. Pourquoi ? Parce que quand on est freelance et qu'on se pose sur Internet, on va sur un site, on pose son CV, on est embauché à distance, on touche peut-être 2000, 3000 euros. Alors que si je suis salarié dans une boîte en Afrique, je vais toucher 300, 400 euros de salaire. Donc les gens ne veulent pas rejoindre
mais
des startups.
Je ne sais pas si ça concerne vraiment tout le monde, cet aspect de mettre son CV sur Internet et d'être recruté.
Mais je parle des gens qui ont fait le choix de vouloir travailler en ligne. Mais moi, de ce que j'ai pu voir en tout cas sur mes différents voyage, les gens qui avaient des startups, la première problématique qu'ils avaient, alors un, il y a le financement, c'est sûr, mm-hmm. c'est ce qu'on appelle surtout le financement d'amorçage, mm-hmm. comment j'amorce ma startup, et quand ils y arrivent, le premier problème, c'est de trouver des salariés, et en plus qui sont souvent formés, qualifiés aux nouvelles technologies.
Tout à fait,
c'est une des problématiques. Et comme il y a beaucoup de freelance, ils ont du mal à...
Pour continuer à essayer de décrypter un petit peu tout cela, on va écouter un message WhatsApp de Hervé Cyril qui est à Yaoundé. Écoutons-le.
Salut les voisins. En ce qui concerne les startups, elles sont extrêmement attrayantes à leur début. Lorsque je cherchais encore du travail, j'ai fait la rencontre d'un responsable de start-up. J'étais très enthousiasmé de rencontrer ce responsable et nous avons eu un entretien d'embauche. Il m'a préalablement envoyé étudier un logiciel qui devait me permettre de travailler. Après cela, j'ai donc été embauché. Mais seulement 3 mois plus tard, l'entreprise a refermé ses portes parce que il y avait un problème de moyens financiers, il y avait un problème d'équipement, d'installation. Il fallait faire fonctionner la boîte et c'était extrêmement difficile. Et la fermeture de cette entreprise a entraîné beaucoup de tristesse du côté des employés qui étaient très jeunes encore. Et les espoirs que les employés avaient mis en cette start-up se sont évanouis. C'était vraiment très triste.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Voilà, 33 1 84 22 71 71 pour réagir sur notre discussion autour des startups. On a eu un message, là, Arthur de Grave, qui, bon, clairement, on était un peu dans la désillusion plutôt que le...
Oui, on sentait que ça ne s'était pas forcément super bien passé. Ça rejoint un point qu'on évoquait tout à l'heure, hein, c'est qu'une startup, c'est structurellement risqué et que dans 9 cas sur 10, ça se plante et qu'effectivement, quand ça tombe, c'est aussi des gens qui sont mis sur le carreau. C'est évidemment jamais très drôle. Mais il y a un autre point que j'ai retenu dans l'intervention que vous avez eue sur WhatsApp qui était intéressante. L'internaute parlait de l'enthousiasme et du charisme de la personne qu'il avait rencontrée. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a ce biais dans la culture startup qui consiste un peu à parfois jeter un peu de poudre aux yeux. Parce que c'est comme ça. Vu qu'on est sur un modèle qui vise l'hypercroissance, qui n'a pas de modèle économique technique propre encore qui est fragile. On fake it until you make it. Vous savez, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est faire, on fait semblant jusqu'à ce qu'on le fasse.
Vous êtes dans l'univers de la start-up. Ah, mais moi, dans la culture mais de la start-up.
Je suis fluent en franglais. Hein, vous savez, donc on est en plein dedans. Mais donc il y a ce côté un petit peu. On est tenté de créer un espèce de simulacre. Alors tout à l'heure, en backstage avec Farid, on parlait de la série Silicon Valley.
Ah, exact.
Avec cette vision du fondateur de start-up, toujours un peu mégalo, entre deux séances de méditation, qui vous explique toujours qu'il va changer le monde. Il y a toujours un truc, l'horizon, vu qu'on a comme horizon l'hypercroissance, forcément, on n'est pas là pour vendre des produits ou vendre des applications, on va changer le monde.
Est-ce que ce n'est pas une caricature, ça aussi
Un petit peu, mais le problème, c'est qu'effectivement, on est parfois incité à répéter, à mimer ces codes et à tomber dans l'auto-caricature quand on est dans ce monde des startups, parce que il faut bien aller lever des fonds, parce qu'il faut bien exister alors qu'on est fragile. Et ça, quand ça casse, c'est vrai que ça génère de la désillusion, de l'agacement. Et je pense qu'on est un petit peu à ce point-là aujourd'hui.
Et pourtant, ça fait rêver. Ça continue de faire rêver les jeunes générations en Afrique. On est en ligne avec Constant du Burkina. Bonjour Constant.
Oui, bonjour.
Alors vous nous dites que travailler en start-up, c'est un rêve au début. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce qui s'est passé pour vous?
Merci pour la parole. Et voilà, le principe de start-up, quand on commence d'abord, et il y a la passion dont on travaille, on investit tout ce qu'on a sans vraiment compter quoi. Mais maintenant, quand on va commencer à engager des gens, à impliquer beaucoup, et c'est là-bas que les soucis commencent si on n'arrive pas à avoir de bénéfices vite. J'avais un projet depuis 5 ans.
Mm-hmm.
Et j'ai appelé un ami pour qu'il vienne, on va travailler sur le projet.
Oui.
Et au début, il avait dit qu'il n'y a pas de problème. On a commencé les démarches. Et puis, après, lui, il est parti, quoi. Donc, il m'a laissé seul. Lui ne voyait pas l'intérêt vite.
Il ne voyait pas l'intérêt de continuer, c'est ça? Ou il pensait que ça allait être plus rapide, les choses allaient se faire plus rapidement, peut-être?
Il croyait que c'est quelque chose. Comme souvent, les gens là, prennent les termes là, ils ne comprennent pas bien les termes là. Donc, comme on parle de start-up, les gens voient des millions en 1 mois, en 2 mois, 3 mois, un an. Donc, au début, ça devient compliqué.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Constant. Est-ce que, messieurs, le problème, ce n'est pas un souci de communication un peu sur la start-up, au-delà de la définition qu'on a du mal comme ça un peu. Est-ce qu'il n'y a pas... on valorise peut-être trop les succès, les énormes success stories.
Oui, mais il faut bien faire rêver les gens aujourd'hui où on en est. Il faut bien que les gens se lèvent et aient envie de créer une entreprise. Et on disait qu'il y en a 9 sur 10, mais c'est comme gagner au loto. On a encore plus de chances de faire une start-up que de gagner au loto. Donc il y en a une chance sur 10 de monter une start-up.
On se dit que peut-être on va être l'exemple.
C'est la carotte qui fait en sorte qu'on y va.
C'est vrai que les stats... Là, 9 sur 10, c'est 9 qui se plantent. Ça ne veut pas dire que la dixième va devenir une licorne et être valorisée à 1 milliard. Ça, on est encore sur des statistiques qui sont encore...
Une licorne, c'est une...
Une licorne, alors c'est une entreprise valorisée plus d'un milliard de dollars,
il y en a
généralement.
Pas beaucoup. Il y en a 3 en France, me semble-t-il.
Ça dépend, oui, parce que parfois, elles se revendent à l'étranger. Donc oui, on va dire qu'on est entre 3 et 5. Mais effectivement, cet horizon-là n'est pas évident. Mais c'est là où on touche à quelque chose qui relève de l'idéologie. Et je reviens toujours un petit peu sur les messages que vous aviez au début, mais on sent que créer une start-up, si on a vraiment une idée, si on pense qu'on peut tout casser avec ça, pourquoi pas. Mais si c'est par défaut, parce que on veut vous pousser hors des statistiques du chômage, c'est pas tout à fait la même histoire. Alors c'est là où on tombe dans quelque chose qui relève d'un mirage idéologique, c'est que oui, il faut donner un peu de rêve, oui, il faut créer des mythes. Je trouve que dans certains cas, dans notre belle Startup Nation, ça me rappelle des trucs de propagande un peu vieillot, type Stakhanov, vous savez, en Union soviétique.
Enfin,
cette espèce de mythologie
quand même...
qu'on créait pour dire, regardez, cette espèce de surhomme qui produit plus, qui dort 3 heures par nuit, comme tous les entrepreneurs, parce que les entrepreneurs dortent 3 heures par nuit.
Oui, mais les gens ne sont pas dupes aussi. À un moment donné, nous sommes à l'aube de 2020. Je veux dire, c'est pas parce qu'on vous dit que ça va se passer comme ça, on s'informe. Aussi,
on entend qu'effectivement vos auditeurs, les gens qui nous ont appelés, les messages qui vous ont été postés, on voit qu'effectivement le mythe a vécu et que les gens ne sont pas dupes et voient un petit peu l'envers du décor, et tant mieux. Mais c'est vrai que je vous dis, il y a 10 ans, c'était pas tout à fait la même histoire.
Moi je vais quand même me mettre du côté du rêve. Faut pas oublier quand même que 4 entreprises américaines, donc on va parler par exemple des GAFA, représentent peut-être je vais en mettre que 2, je crois. Je vais parler d'Apple Apple et alors GAFA, il y avait qui ? Apple et Amazon, on va dire, c'est 2000 milliards de capitalisation boursière aujourd'hui. Mm-hmm. Ce que je veux dire aussi, c'est que même
aux États-Unis.
Oui, mais même si c'est aux États-Unis aujourd'hui, ce qui porte aujourd'hui le monde, c'est aussi beaucoup le numérique. Donc oui. Les services et ainsi de suite. Donc les gens savent que l'avenir va vers ça. Donc c'est aussi ça. Se placer sur les startups, c'est aussi se placer dans l'avenir. C'est pour ça aussi qu'on parle de rêve et que les gens veulent y aller. C'est que personne ne rêve de monter une industrie aujourd'hui. Il faut comprendre que le rêve vient des gens aussi. Et c'est pour ça que je pense que le format auto-entrepreneur a marché énormément en France. Mm-hmm. Je crois qu'on parlait jusqu'à de 400 000 entreprises par an créées. Mm-hmm. C'est parce qu'on se disait, j'ai mon PC et je peux rêver. Oui. Mais avant...
monter... J'ai la bonne idée, j'ai le bon fonctionnement.
Voilà, mais avant, même une boulangerie, il fallait beaucoup d'argent. Hein. Il fallait louer le local, il fallait se déplacer. Donc c'est ce qui fait rêver aujourd'hui, c'est le peu d'investissement.
Alors, selon une étude de Deloitte Suisse, la jeune génération souhaite conjuguer plaisir, travail, apprentissage et indépendance. Selon le baromètre Paris Workplace 2017, publié par la société foncière SFL en partenariat avec l'IFOP, les salariés des startups évaluent leur bien-être à 7,97 sur 10 contre 6,50 sur 10 pour la population générale. Mais qu'est-ce qu'il en est dans la réalité ? Élément de réponse tout de suite avec Alice, 32 ans. Elle travaille depuis 4 ans pour une plateforme de e-commerce, une start-up parisienne dans toute sa splendeur. Témoignage au micro d'Alice Milo.
Je travaille dans une start-up de e-commerce qui a 7-8 ans et qui est en plein centre de Paris, dans des bureaux, tout ce qu'on imagine de la start-up un peu cool. C'est grand, c'est beau, ça a été construit par un architecte. Il y a une salle de sport, une grande cuisine ouverte, un baby-foot, une salle de sieste. Il y a des canapes partout. La moitié des gens travaillent effectivement dans les canapes, un peu avachis, avec des ordi portables. Les murs sont vitrés. C'est un univers, c'est un peu la maison qu'on rêverait d'avoir, avec des tonnes de gens cool en t-shirt et en basket, quoi.
Vous n'avez pas de poste fixe ?
Non, il n'y a pas de poste fixe, ça s'appelle du flex office. On a des petites boîtes dans lesquelles on met nos affaires et chaque matin, on s'assoit un peu où on veut parce que ça crée un sentiment de proximité très fort. Ça va avec le fait qu'il y a une hiérarchie horizontale, tout le monde peut être à côté de tout le monde, que ce soit, je peux aller m'asseoir à côté du DG qui n'a pas de bureau, qui a comme tout le monde une boîte et un ordi portable et qui s'assoit là où il y a de la place. Il n'y a pas de hiérarchie, donc c'est très facile d'aller parler à tout le monde. Quels que soient les niveaux, donc que ce soit le stagiaire qui vient d'arriver ou le fondateur ou le directeur financier qui est là depuis le lancement de la boîte, tout le monde est très disponible et très disposé à interagir, quelle que soit la personne qui pose la question. Donc ça, en termes d'efficacité, c'est imbattable. Au début, quand je suis arrivée, c'était liberté totale. Personne contrôlait vraiment les pauses déj, les horaires d'arrivée, les horaires de départ, les week-ends qui commencent plus tôt pour payer moins cher les billets de train et les remotes.
Quoi ?
Les remotes, c'est-à-dire le télétravail, pardon. On a beaucoup d'autonomie et de responsabilité relativement au poste qu'on a, mais beaucoup plus que dans des entreprises classiques. Et puis, c'est construit de telle manière qu'en fait, c'est comme une grande famille. Donc on est tous copains. En général, les fondateurs ou les directeurs, en fonction de l'organisation, sont un peu comme des grands frères ou des parents, ce qui crée un sentiment de confort et de simplicité très fort.
Vous êtes combien dans la boîte ?
Maintenant, on est 70. Donc moi, je me suis juste dit, super, ça va être une nouvelle bande de copains.
Alors, qu'est-ce qui vous dérange aujourd'hui ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fatigue aujourd'hui ?
Alors, je pense qu'il y a trois choses qui me dérangent. Il y a une chose qui est un peu systémique à la start-up, qui est qu'en fait, il n'y a pas de progression possible, puisque comme on est dans un contexte flat, dans une hiérarchie horizontale, c'est-à-dire qu'il y a le moins d'échelons possible. Du coup, bah, il y a le moins d'échelons à gravir aussi, et donc du coup, on est assez vite limité dans un plan de carrière.
Et ça vous frustre, par exemple, à titre personnel ?
Oui, c'est assez frustrant parce qu'en fait, soit on est calife à la place du calife, soit on s'en va. Il n'y a pas trop d'autres possibilités. Et en même temps, ça pourrait être intéressant, personnellement, intellectuellement, d'avoir des échelons à monter.
Vous manquez de défis.
Exactement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de turnover, de gens qui changent d'entreprise assez rapidement. Au bout de 2-3 ans, on a fait le tour de son poste et il n'y a pas forcément autre chose à aller chercher au-dessus. Donc ça, c'est une première chose. Et après, plus spécifiquement à moi, mon univers de travail, il y a quelque chose qui aujourd'hui me gêne beaucoup, qui est justement le fait qu'il n'y a pas de management. Ça veut dire plein de choses, c'est un mot valise, ça veut dire gérer l'humain et le personnel des gens, quand ça va pas, être disponible pour les écouter, pour faire en sorte que ça pâtisse pas sur leur travail et qu'ils soient capables de faire la part des choses et en même temps de pas se retrouver oppressés dans un système qui leur permet pas de gérer leurs problèmes personnels quand il y en a. Faire qu'ils s'ennuient pas, qu'ils aient des nouveaux challenges, qu'ils sachent où ils en sont, comment faire mieux, ce qu'ils font moins bien.
Vous avez l'impression que la start-up dans laquelle vous travaillez est dans le déni que le management est quelque chose qui est nécessaire.
Ouais, c'est exactement ça. Déni total. Je suis pas managée, j'ai pas de management. Quand j'en demande, j'ai pas de retour.
Parce qu'on considère que c'est ringard.
Je pense qu'il y a plein de choses. Je pense qu'effectivement, c'est un peu ringard. C'est plus sympa d'avoir un baby-foot et de se donner la sensation que tout le monde est heureux là où il travaille et donc du coup, tout va bien. Donc oui, je pense que c'est parce que c'est ringard, parce que ça prend du temps, parce que c'est probablement des choses qu'ils ne savent pas faire. Donc c'est plus facile de déconsidérer des choses qu'on ne sait pas faire plutôt que de se rendre compte qu'on n'est pas bon dans quelque chose. Je pense qu'il y a tout ça. Et alors, ça amène aussi à troisième chose que aujourd'hui je dénigre un peu, qui est le fait que, comme on a une start-up, on est fragile, on est récent, on a des chances de fermer, on a des chances de ne pas survivre. Et donc, du coup, tout le monde travaille à l'effort de guerre. Donc, on n'est pas forcément aussi bien payé qu'ailleurs. On n'a pas de tickets resto, on n'a pas de RTT, on n'a pas de CE à proprement parler, on n'a pas de RH.
De comité d'entreprise.
On n'a pas de RH.
Ressources humaines.
Alors, c'est normal quand on est une petite entreprise, mais en même temps, si par exemple, il y a un problème de harcèlement, et ben en fait, on est seul face à notre problème de harcèlement, face à des gens, enfin, ou alors... entouré de gens qui sont pas nos managers et qui sont juste nos copains, il n'a pas été construit des espèces de sas où les gens peuvent parler. J'en ai pas eu besoin personnellement, mais il y a des gens dans mon entreprise qui ont ressenti ce type de problème et qui sont partis. Et tout ça, je pense que c'est assez malsain et en fait, on régresse un peu dans les droits du travail, quoi. L'air de rien, caché derrière un baby-foot. C'est un peu facile de dire on a acheté 5 canapes confortables et du coup, on est au top et on traite nos employés comme personne.
On régresse sur les droits du travail cachés derrière un baby-foot. Si on avait plus de témoignages comme ça, Farid Arab, est-ce que la start-up ferait rêver encore ?
Ou si,
c'est
si,
assez
si.
Saisissant.
Il y a assez de monde. Il y a assez de monde pour rêver. Non, je pense qu'en plus, on a défini tout à l'heure la start-up, mais on l'a défini presque du côté francophone. La problématique qu'on a, c'est qu'il y a presque une start-up par écosystème. Donc chacun, les Américains ne voient pas la même manière de manager que nous en France, qu'on le ferait peut-être même en Afrique.
Donc peut-être qu'il faut trouver une façon de créer des start-up à la française.
Mais attention, on est toujours sur le même thème que le départ. La start-up, ça reste une période transitoire. Donc on parle toujours de la même chose. C'est-à-dire que de toute façon, la start-up, on ne peut pas... Quand on va dans une start-up, on sait très bien qu'il y a des problèmes. C'est toujours la même chose, c'est risque et opportunité. Je vais dans une start-up parce que je peux avoir de l'argent, parce qu'il y a les stock options, donc je peux gagner beaucoup d'argent. Je sais que ça va être excitant parce que comme c'est en création, il y a plein de choses qui arrivent, il y a des choses qui sont possibles ou pas.
J'ai pas l'impression que les jeunes savent que ça sera comme vous le dites, en fait.
Ah si, ça l'est aujourd'hui, puisqu'on est en création... on pourrait presque... La problématique des startups, ou du mot même startup, c'est que chaque startup a son modèle. Chaque startup va avoir sa manière de manager. Avant, on avait tous des normes de travail. C'est ce qu'elle explique. On a dans une société, une SARL, une SA, à partir de 50 salariés, on a un CE. Le problème de la startup, c'est que comme c'est en mouvance, même il y a peut-être des gens qui sont en scope et qui sont en startup.
En ça scope.
C'est-à-dire qu'ils ont un statut juridique.
Vous parlez vraiment comme vous avez le langage des startups.
Coopérative.
Ah non, ça, c'est même pas des startups. C'est une coopérative. C'est-à-dire que c'est des startups qui ont
en
pris
crop.
Comme qui ont pris un modèle de coopérative. Et là, c'est égalitaire. C'est-à-dire que même le statut juridique va définir presque aussi la manière dont on va gérer une start-up. Bien sûr que ça ne fait pas rêver aujourd'hui parce qu'il y a des problématiques, mais tout dépend finalement du passage, si le passage est réussi ou pas. S'il y a un passage qui est réussi entre la start-up et l'entreprise, ça peut être intéressant. Si ce n'est pas réussi, là, il y a beaucoup de problèmes.
On va continuer d'en discuter dans quelques instants. Pour le moment, on écoute PLK avec « Travailler dans 7 milliards de voisins ».
Travailler, il faut travailler. Mon ami, dans la vie, faut travailler. Tu veux la petite, mon ami, faut travailler. Tu veux le rater, mon ami, faut travailler.
Hey, tu veux bosser sur le terrain, fais bel écho, Schmitt.
Ah oui.
Hey,
mais c'est mieux qu'être au SMIC. Dans tous les cas, va falloir transpirer. Rien n'est donné, chaque euro est compté. Alors prépare-toi mon poteau, la vie c'est pas un film. Non, faut se lever très tôt, le réveil c'est les insignes. Ah, tu sais comment c'est, je passe à l'épicerie. Ils vendent des chewing-gums qui ont l'âge à les cheesy. Pour faire des ronds, y'a pas de secret. Y'a que le charbon, y'a que ça qui paie. Pour faire des ronds, y'a pas de secret. Y'a que le charbon, y'a que ça qui paie. Travailler, il faut travailler. Mon ami, dans la vie faut travailler. Tu veux la petite, mon ami, faut travailler. Tu veux le rinté, mon ami, faut travailler. Travailler, il faut travailler. Travailler, il faut travailler. Travailler, il faut travailler. Travailler, il faut travailler. Sur le dossier de la petite que j'ai travaillé, elle m'a dit c'est mort, tu seras pas mon cavalier. Oh merde, ça c'est fait, faut que je la bosse encore. Elle veut me faire craquer, elle veut me mettre en tort. Elle m'a dit mon pote c'est cuit, je serai pas ta chérie. Tu fais que de me courir après comme dans Tom et Jerry. Ouais tout ça c'est pathétique, moi je suis pas une fanatique. Je m'en fous de ton buzz, de tes sous, de tes clips. Ah pour serrer la go, y'a pas de secret. Faut se faire tout beau, faut se faire tout frais. Ouais pour serrer la go, y'a pas de secret. Faut se faire tout beau, faut se faire tout frais. Travailler, il faut travailler. Mon ami, dans la vie faut travailler. Tu veux la petite, mon ami, faut travailler. Tu veux le rinté, mon ami, faut travailler. Travailler, il faut travailler. Travailler, il faut travailler. Travailler, il faut travailler. Travailler, il faut travailler. Hey, en réalité, je crois qu'il faut bosser pour tout. Y'a pas que pour le rinté, la petite et les sous. Ouais, y'a pas de recettes, mais y'a beaucoup de déçus. Parce que quand faut faire l'effort, ils disent que ça les saoule. Ah, en réalité, je crois qu'il faut bosser pour tout. Y'a pas que pour le rinté, la petite et les sous. Ouais, y'a pas de recettes, mais y'a beaucoup de déçus. Parce que quand faut faire l'effort, ils disent que ça les saoule. Ah, mais... Travailler, il faut travailler. Mon ami, dans la vie, faut travailler. Tu veux la petite, mon ami, faut travailler. Tu veux le rinté, mon ami, faut travailler. Travailler, il faut travailler. Travailler, il faut travailler. Travailler, il faut travailler. Travailler, il faut travailler.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans 7 milliards de voisins travailler. Mais alors, travailler dans une start-up ou pas? Messieurs, est-ce que le souci, c'est peut-être... Si la start-up, tant que tout va bien dans la start-up, on le disait hors antenne, est-ce que là, finalement, il n'y a plus de problème pour les employés? Parce que vous vouliez revenir, Arthur de Graaf, sur le témoignage d'Alice.
Oui, j'ai trouvé ce témoignage particulièrement intéressant. Le choix musical en arrière-plan était intéressant aussi. Il y avait un contraste. Ça m'a fait penser à cette chanson de Radiohead en 1997 sur OK Computer qui s'appelle Fitter Happier, où vous avez une voix robotique qui, au début, raconte des choses très je vais bien, tout va bien, et au fur et à mesure, ça se décompose. Et là, le témoignage, il y avait un petit peu ce côté-là. Au début, c'était très corporate. On parlait des baby-foot, du fait qu'on est tous une grande famille, et ça se terminait sur quand même, on régresse sur les droits sociaux derrière le baby-foot. J'ai trouvé ça assez fascinant, mais effectivement, l'un des biais, comme dans toute entreprise, mais encore plus dans la culture start-up, qui donc concerne des entreprises jeunes, qui sont généralement fondées par des gens qui ne sont pas trop vieux, donc qui n'ont pas envie de venir au travail en costard-cravate, qui se jouent un peu l'entreprise à la cool.
Une entreprise à taille humaine aussi.
Entreprise à taille humaine, au moins en début. Donc, effectivement, on est tenté de se dire on est une grande famille. Et tant que tout va bien, effectivement, il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'employé, on est tous à égalité et compagnie, formellement. Mais ça, c'est quand tout va bien, et effectivement, quand les choses se corsent un petit peu, quand les capitaux arrêtent d'affluer, et Dieu sait que dans pas mal de cas, il y a un jour où les capitaux arrêtent d'affluer parce que le modèle économique n'a pas fait ses preuves, là, la réalité de ce qu'est la relation de travail va apparaître à nouveau, et on va se rendre compte qu'effectivement, il y a des gens qui détiennent les capitaux et des gens qui n'en ont pas, qu'il y a des salariés et des patrons, et là, on va commencer à compter les pauses, à vérifier qui a pris ses vacances quand, et non, une entreprise, c'est pas une grande famille. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, mais une entreprise, c'est une entreprise. Et une start-up aussi.
Mais alors, finalement, au lieu d'opposer les start-up aux multinationales, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant et plus efficace aussi de faire une sorte de mélange des deux, d'avoir peut-être plus de philosophie ou de culture, sans caricaturer, de philosophie de culture de la start-up avec plus de management des entreprises?
La problématique, c'est que de toute façon, une start-up va finir par être un grand groupe si ça marche. Donc, de toute façon, c'est un peu la même culture. Non, moi, je pense plutôt à des...
Et donc, créer de l'emploi, parce que... créer de l'emploi aussi.
Oui, non, parce que souvent, ça ne crée pas tant que ça. C'est une des problématiques. C'est que les start-up, on est une équipe de 70 et on peut changer le monde avec 70 personnes. C'est un peu le problème. C'est que même en Afrique, j'en revenais avec quelques ministres, j'en discutais pendant le sommet de la francophonie, qui me disaient que chez eux, ils allaient peut-être revoir le modèle des start-up parce qu'aujourd'hui, un mec qui réussit, bah, il part à l'étranger. Donc il parlait plutôt d'agritech. Il disait, tiens, moi, j'ai envie plutôt d'aider les jeunes à aller dans la technologie, dans le domaine de l'agriculture, parce que, un, ça va nous aider.
C'est un défi pour le continent africain, voilà. Oui.
Je pense que le vrai truc, c'est que pourquoi on rêve des startups, c'est parce qu'on pense qu'elles vont changer le monde en bien. Et c'est pour ça que les jeunes veulent rejoindre aussi. À la différence des grands groupes, c'est qu'un grand groupe, on vient, on s'installe, on est une personne qui
parmi
travaille
d'autres.
Et on ne sait pas finalement notre place. Mais quand on est dans une start-up qui veut changer le monde, aider un peu plus, bah, voilà, on veut la rejoindre et ça nous fait rêver. Et après, le problème, c'est que quand on arrive dans l'entreprise, bah, on voit qu'il y a des problèmes de business model, on voit que ça marche mal et ainsi de suite. Et là, ça peut devenir un cauchemar.
Mm-hmm. Mais ce qui est vrai, c'est que restaurer le plein emploi avec les start-up, par définition, ça va être compliqué. Puisqu'on est sur des modèles qui visent l'hyper-croissance et donc l'hyper-rentabilité parce qu'elles doivent financer leur hyper-croissance. Donc, par définition, ce sont des modèles assez peu intensifs en emploi. Et ensuite, en plus, c'est plutôt des boîtes qui vont chercher des profils très qualifiés, des gens très diplômés. Donc, du coup, ça ne vise pas...
Ça ne concerne pas forcément
concerne pas les
tous les chômeurs.
Oui, il y a un biais élitiste.
Rapidement, le mot de la fin, qu'est-ce que vous avez envie que les auditeurs retiennent?
Moi, je vais... le mot de la fin, les startups, ça peut être aussi très bien. c'est aussi un modèle qui peut être bien si on a les bons dirigeants. Qu'on a un management, une bonne vision, mais aussi un bon management, c'est-à-dire qu'on sait où on va, on sait ce qu'on peut faire, et puis pas mentir spécialement à ses salariés en leur disant vous venez chez nous, mais vous savez qu'il y a des vraies problématiques, donc vous le prenez le risque
Arthur
finalement
Degrave,
de le faire.
Un dernier mot.
Mais écoutez, j'irais comme le chantait Didier Super, les start-upers, il y en a des biens. Effectivement, c'est un modèle qui peut avoir ses vertus, qui peut servir dans certains cas d'innovation. Je pense qu'on peut faire de la tech et de l'innovation sans passer par le mode start-up, mais on peut aussi faire autre chose de sa vie, et c'est très bien aussi.
Merci à tous d'avoir été avec nous dans cette émission.
Merci,
je le rappelle, Arthur Degrave, vous êtes cofondateur de l'agence de communication Stroika, et puis auteur du livre Startup Nation, Overdose Bullshit, Farid Arab, entrepreneur et président d'un collectif d'entrepreneurs, Founder Family, et d'un réseau de change makers. On remercie aussi Yaya Bruno Koné qui était avec nous en direct d'Abidjan. Merci à toute l'équipe de l'émission, Cécile Lavolo, Romain Dubrac et Baptiste Madinier. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio, rubrique magazine, et nous retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Demain, 7 milliards de voisins revient pour parler des 30 ans de la chute du mur de Berlin. À demain et prenez soin de vous.